France Inter.
Bienvenue à tous. À la une de ce 13h, la paix ou la tragédie, pour reprendre les mots de Donald Trump la nuit dernière en commentant les frappes américaines sur 3 sites nucléaires iraniens. L'Iran annonce ce matin qu'il se défendra par tous les moyens nécessaires. Israël a donc réussi à entraîner les États-Unis dans son conflit avec l'Iran. La France appelle à la retenue et l'Élysée convoquera ce soir un conseil de défense avec Emmanuel Macron. Il y a donc ce matin beaucoup de questions sans réponse concernant les réels dommages de guerre en Iran. Interrogations sur la capacité de riposte des Iraniens, sur la recomposition des équilibres géopolitiques au Proche-Orient. Vous l'avez compris, nous allons consacrer une large place à cette nouvelle séquence guerrière et ses conséquences. Pour le reste, en France, nous essaierons de comprendre ce qui s'est passé dans ce mariage la nuit dernière dans le Vaucluse. Il y a 2 morts par balle, dont la mariée. Et puis nous irons prendre le frais dans une grotte, la vie troglodyte, et ça nous fera le plus grand bien. Le temps de ce dimanche, Magali Rochereau, attention à ces orages qui arrivent.
Oui, Eric, et aussi d'une nette baisse des températures sur l'ouest, alors qu'elle reste élevée sur l'est du pays, qui conserve sa vigilance orange sur l'Isère et le Rhône.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Il s'était donné 15 jours de réflexion, or 2 seulement auront suffi à Donald Trump pour engager la première puissance militaire mondiale dans le conflit israélo-iranien. 3 sites nucléaires ont donc été visés en Iran, Isparan, Natanz et Fordo, ciblés par les bombardiers B-2 chargés notamment de bunkers bombes américaines. On va y revenir dans un instant. Les capacités nucléaires de l'Iran seraient complètement détruites si l'on en croit le président américain, dont on a appris à douter des commentaires. Et en guise de riposte ce matin, eh bien, l'Iran a ciblé l'État hébreu. 27 missiles iraniens ont été envoyés sur Israël, notamment vers l'aéroport Ben Gurion, avec parfois d'importants dégâts. Il y aurait 13 blessés en Israël. Bonjour Farid Anouar.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Inter en Israël. Plusieurs explosions, je le disais, notamment à proximité de Tel Aviv. Vous vous êtes rendu dans un quartier touché, quartier huppé au nord de la ville.
Oui, et les secours sont toujours sur place, près de cet immeuble dont la façade est complètement éventrée, arrachée. Il y a aussi une dizaine de pavillons en face réduits en miettes. Les habitants ont eu le temps ici pour beaucoup de se réfugier dans les abris au moment de l'alerte, mais il y a quand même une dizaine de blessés légers autour de nous. Des habitants font des cartons, traînent des valises pour partir se réfugier dans leur famille parce que de leur maison, il ne reste plus rien, comme Marit qui part avec ses parents encore choqués. Puis il y a eu ce bruit que je ne peux même pas décrire. Mon cœur a battu très fort. Tout le sol a explosé, tous les murs sont détruits, les fenêtres pulvérisées. Je me suis blessée 2 fois en essayant de récupérer des objets qui ont une valeur sentimentale, mais tout est détruit. Et Yair Lapid, le chef de l'opposition entouré de gardes du corps, est venu aussi sur place tout à l'heure. Ce que vous voyez ici, dit-il, est la parfaite différence entre nous et nos ennemis. Ils attaquent des citoyens, des femmes, des enfants parce que c'est ce que ce régime est. Je félicite ici le président Trump et son armée pour avoir pris part à un changement historique. Le monde est un endroit plus sûr depuis la nuit dernière. Au total, les frappes iraniennes de ce matin ont fait 86 blessés légers en Israël.
Farida Nouar, en direct de Tel Aviv, avec les moyens techniques d'Éric Audra. On reste en Israël avec vous, Thibault Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Correspondant à Jérusalem, l'espace aérien vient de rouvrir en Israël, ou en tout cas est en passe de l'être, mais l'armée israélienne reste bien à l'offensive en Iran.
Réouverture de cet espace aérien pour faire atterrir les avions de rapatriement qui ramènent à la maison les dizaines de milliers d'Israéliens bloqués à l'étranger. La guerre continue dans l'État hébreu, sur le front intérieur notamment, avec un pays à l'arrêt, des écoles fermées, des rassemblements interdits, mais pas plus qu'hier et depuis 10 jours, quand Benjamin Netanyahou a déclaré unilatéralement la guerre à Téhéran. Et puis sur le front extérieur, vous l'avez dit, l'aviation continue de frapper ses cibles et de profiter de sa maîtrise totale du ciel dans l'ouest de l'Iran. L'armée de l'État hébreu affirme avoir détruit 2 avions de chasse sur un aéroport à l'est. Les drones traquent toujours les lanceurs de missiles. 6 d'entre eux ont été anéantis, ce qui limite encore un peu plus la capacité de réponse iranienne. La guerre continue donc, et comme tous les jours, le porte-parole de l'armée israélienne, Effie Defrin, s'est adressé à la presse.
From Gaza to Lebanon,
De Gaza au Liban, du Yémen à Téhéran, le régime iranien a passé des années à répandre la terreur dans la région. Et maintenant, il paie le coût de son agression sur son propre sol. La capacité du régime à menacer Israël est démantelée, étape après étape, et même si nous opérons à 1500 km d'ici, en Iran, l'armée israélienne combat jour et nuit sur plusieurs fronts pour atteindre tous nos objectifs de guerre.
Des objectifs de guerre, donc, sans plus de précision. Israël et les États-Unis ont évidemment ralenti la progression du programme nucléaire iranien, mais ne l'ont vraisemblablement pas annihilé. L'Iran peut toujours, comme il l'a prouvé ce matin, frapper avec des missiles balistiques le territoire israélien. Et le régime tient bon, pour le moment en tout cas, malgré la campagne d'assassinat ciblée qui a touché des commandants des gardiens de la Révolution, l'arme idéologique du régime et des scientifiques.
Oui, je fais une parenthèse concernant l'autre front israélien à Gaza. L'armée israélienne annonce ce matin avoir ramené les corps de 3 otages qui étaient retenus depuis l'attaque du 7 octobre 2023. C'était Thibault Lefèvre en direct de Jérusalem. Nous partons maintenant à Téhéran qui promet des conséquences éternelles après l'attaque américaine la nuit dernière. Siavosh Ghazi, vous êtes le correspondant de France Inter à Téhéran. Le régime iranien estime ce matin que les États-Unis ont fait exploser la diplomatie.
Le chef de la diplomatie iranienne, qui se trouve toujours à Ankara, a rejeté la demande des pays européens pour revenir à la table des négociations. La table a été détruite par les Américains et les Israéliens. Comment pouvons-nous y retourner, a demandé Abbas Araghchi. De leur côté, les gardiens de la Révolution ont affirmé dans un communiqué que les agresseurs devaient s'attendre à une réponse qui les fera regretter. Pour l'instant, on ne sait pas quelle sera la réponse de Téhéran ou tout simplement s'il n'y aura pas de réponse. Les bases américaines dans la région, notamment au Qatar et à Bahreïn, ou encore en Irak, pourraient constituer des sites potentiels. Téhéran pourrait également être tenté de fermer le détroit d'Hormuz. Mais dans ce cas, le risque de nouvelles frappes américaines est très grand, comme l'a menacé le président Trump, alors que les opérations israéliennes se poursuivent en Iran et que Téhéran a lancé ce matin une trentaine de missiles contre Israël. Les Iraniens craignent un engrenage militaire qui aura des conséquences à court terme pour la population et à long terme pour le pays.
Siavosh Ghazi en ligne de Téhéran. Je précise que l'AIEA, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, elle n'a décelé ce matin aucune hausse des niveaux de radiation aux abords des 3 sites nucléaires iraniens qui ont été visés la nuit dernière par les frappes américaines. Cette instance onusienne, l'AIEA, va d'ailleurs se réunir en urgence demain en son siège à Vienne, en Autriche. Et bonjour Michel Duclos.
Bonjour.
Vous êtes ancien ambassadeur de France en Syrie, aujourd'hui conseiller spécial géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne. Je vais donner le titre de votre livre sur la diplomatie à la fin de notre entretien. L'Iran qui n'a pas encore annoncé sa stratégie, disait Siavosh Ghazi, notre correspondant à Téhéran. Entre la capitulation et la surenchère, quelles sont désormais les options qui s'offrent à l'Iran ?
Bah, vous venez de les caractériser en une formule. Et on peut dire d'une certaine façon, connaissant le système iranien, qu'il va peut-être avoir du mal à trancher entre les deux. Et je m'explique, dans la façon que dans la manière dont les Iraniens abordent les questions internationales, il y a souvent ce trait qui consiste à finasser. Alors, est-ce que c'est un trait culturel ? Ça, je ne sais pas.
L'Iran aime le temps long.
Ou est-ce que, plus probablement, c'est un régime où il y a, comme partout, beaucoup de tendances et la République islamique aime bien procéder de façon un peu consensuelle entre les gens qui sont des participants au pouvoir. Or là, je crois qu'effectivement, si on pouvait leur donner un conseil, et je pense que par différents canaux, plusieurs acteurs dans la région et en Europe essaient de les influencer. Ils auraient quand même intérêt à faire une riposte symbolique, à prétendre qu'ils n'ont pas été gravement touchés, ce qui est un peu ce qu'ils ont commencé à faire, mais quand même voir les moyens d'apaiser les États-Unis et donc de renouer d'une manière ou d'une autre la négociation avec Washington, ce que, comme vous l'avez dit, M. Araghchi a pour l'instant écarté.
M. Araghchi qui est le ministre iranien des Affaires étrangères. Quelles conséquences y aurait-il si l'Iran décidait de s'en prendre aux intérêts américains dans le Golfe, c'est-à-dire au Qatar, aux Émirats, en Arabie Saoudite, au Bahreïn, également en Irak?
Ça, c'est l'autre branche de l'alternative. Et là, c'est clair que Trump serait contraint à faire ce que précisément il ne veut pas faire, c'est-à-dire à nouveau frapper de manière encore plus forte et beaucoup plus systématique l'Iran. Alors évidemment, à la différence de ce qui s'était passé en Irak ou en Afghanistan, il n'y aura pas de troupes américaines au sol, oui. Ce qui fait quand même une très grande différence. Oui. Mais malgré tout, pour un homme qui a été élu sur l'idée de mettre un terme à toutes les guerres possibles et de ne certainement pas en réinitier d'autres, vis-à-vis de sa base, le président aura un problème.
Je m'adresse maintenant à l'ancien ambassadeur que vous êtes. L'Iran estime ce matin que la diplomatie a explosé sous les bombes américaines. Y a-t-il encore une place désormais pour la diplomatie, comme le rappelle encore ce matin la France ?
Il y a toujours une place pour la diplomatie et il faut espérer que lorsque le ministre iranien dit ça, il est dans la posture. Mais c'est une chose de dire cela et c'est une autre chose de refuser effectivement tout canal de discussion. J'espère que les Iraniens n'en sont pas là.
La décision de Donald Trump d'entrer en guerre est critiquée, on va le voir dans un instant, à la fois par les démocrates et une partie de ses propres soutiens, des propres soutiens de Donald Trump. À quelle logique Donald Trump a répondu cette nuit dernière ?
Il me semble, c'est difficile à dire quand on est à Paris et il faudra voir ce qui sort de Washington dans les prochains jours. Mais il me semble qu'il avait le choix qu'entre deux options, non pas impossibles ou dangereuses, mais deux options difficiles. Parce que ce qu'il craint en intervenant, c'est qu'il met le doigt dans un engrenage. Il pense aussi au prix du pétrole. Et donc, il pense enfin à sa base MAGA qui est contre. Donc, il avait trois bonnes raisons d'essayer d'éviter cette décision.
Merci.
Mais je suppose que ses conseillers lui ont fait valoir que, en attendant, ça ne résoudrait pas ses problèmes, qu'il valait mieux essayer de les trancher dès maintenant.
Merci beaucoup de cet éclairage. Michel Duclos, ancien ambassadeur, désormais conseiller spécial géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne. Je rappelle votre dernier livre, il a pour titre « Diplomatie française ». C'est dans la collection Alpha Essai. Merci beaucoup. L'entrée en guerre des États-Unis, elle est alarmante et inconstitutionnelle, s'emporte le démocrate américain Bernie Sanders. La décision de Donald Trump d'entrer en guerre, je le disais, est contesté aux États-Unis, y compris parmi les propres soutiens de Donald Trump, Sébastien Paour.
Steve Bannon, l'ancien conseiller de Trump lors de son premier mandat, Tucker Carlson, l'ancien présentateur de Fox News, Marjorie Taylor Greene, l'élu de Géorgie, Charlie Kirk, le fondateur de l'organisation d'extrême droite Turning Point, tous sont des soutiens et des proches du milliardaire, mais ils ne valident pas les frappes de la nuit sur l'Iran. Pour eux, l'Amérique devrait s'occuper d'elle d'abord, voire uniquement d'elle. Position différente de celle de la plupart des élus républicains du Congrès, qui sont pour un interventionnisme américain partout dans le monde. Trump lui-même répétait depuis des mois qu'il mettrait fin au conflit. Il disait le jour de son investiture en janvier qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme d'un faiseur de paix. Et son vice-président, J.D. Vance, ne faisait pas mystère de ses craintes d'un conflit qui pourrait durer dans le temps. Côté démocrate, on dénonce déjà une décision prise sans l'aval du Congrès. Le sénateur du Vermont et ancien candidat à la présidentielle, Bernie Sanders, rappelle que c'est la seule entité qui peut entraîner l'Amérique dans la guerre, que le président, selon lui, n'en a pas le droit. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Et je reviens à présent sur ces bunkers bombs, ces bombes capables de pénétrer les bunkers enfouis profondément dans le sol. Bonjour Eric Bigala.
Bonjour Eric.
Spécialiste des questions d'armement à la direction internationale de Radio France. Cette bombe qu'on appelle GBU-57, elle a été la nuit dernière la pièce maîtresse des frappes américaines. Et chose étonnante, c'est la première fois que les Américains l'utilisent, cette bombe, dans les conditions réelles.
En effet, sont les premiers tirs de ces bombes en conditions de guerre. Une douzaine ont été lancées sur les sites de Natanz et surtout de Fordo, où sont enfouies les centrifugeuses du programme nucléaire iranien. Seuls les bombardiers stratégiques américains B-2 peuvent larguer de telles bombes, 6 mètres de long, 13 tonnes. Les B-2 lancés sur l'Iran la nuit dernière peuvent chacun en transporter 2. Alors ce n'est pas le premier test de l'engin, mais c'est bien une première pour ce qui est de tester sa force de pénétration. Les Américains n'ont pas obtenu du Congrès le financement de la construction d'une cible enterrée profondément et bunkerisée. C'est donc théoriquement que la GBU-57 est capable de percer n'importe quel matériau sur 60 mètres d'épaisseur avant de faire explosion. Sur les 13 tonnes que pèse la bombe, sa charge explosive n'est que de 2,5 tonnes. Le plus lourd, le reste, ce sont les aciers spéciaux supposément capables de percer des cibles durcies et profondément enterrées. Enfoui à au moins 80 mètres sous une montagne, le site de Fordow a été frappé par une dizaine de ces bombes, sans doute au même endroit, histoire d'être sûr d'atteindre le cœur de l'installation, les centrifugeuses. Mais pour le moment, nul n'est en mesure de dire si cet objectif-là a bien été atteint.
Éric Biegala, dès hier, avant même l'attaque américaine, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'était entretenu au téléphone avec son homologue américain, Marco Rubio. Et ce matin, alors que plusieurs capitales européennes avaient déjà réagi, il a fallu attendre midi à Paris pour que le Quai d'Orsay s'exprime. Bonjour Lou Bourdi.
Bonjour Éric.
Paris se dit préoccupé par les frappes et défend toujours donc le principe d'une solution négociée.
Oui, c'est ce que dit Jean-Noël Barrot dans un long message posté sur le réseau social X. Un message qu'il commence en assurant que la France n'a participé ni à ces frappes, ni à leur planification. Il appelle également les parties à la retenue pour éviter toute escalade et rappelle la ferme position de la France, la ferme opposition de la France à ce que l'Iran puisse accéder à l'arme nucléaire. En clair, la ligne du gouvernement ne bouge pas, il faut revenir à la table des négociations. C'est ce que disait aussi Emmanuel Macron au salon du Bourget avant-hier. Autre réaction politique parmi les premières publiées, celle de Jean-Luc Mélenchon. Netanyahou et Trump mettent l'humanité en danger pour satisfaire leurs besoins de domination, écrit sur X le leader insoumis qui dénonce un crime de guerre. Et puis du côté du Rassemblement National, le député Jean-Philippe Tanguy, invité il y a quelques minutes sur France Inter, demande au gouvernement français de trouver une solution diplomatique pour arrêter ce programme nucléaire et si possible, je cite, arrêter ce régime.
Et je précise qu'Emmanuel Macron convoquera donc ce soir à l'Elysée un conseil de défense. Merci Lou Bourdi. On aura aussi un œil attentif au détroit d'Ormuz. C'est ce passage que l'Iran pourrait bien fermer en guise de représailles. Le détroit d'Ormuz, long d'une quarantaine de kilomètres, il permet l'acheminement d'un cinquième de la production mondiale de pétrole, ce qui pourrait donc lourdement perturber le marché mondial d'énergie fossile. Voilà donc pour le point dans ce journal, le point sur cette actualité militaire et géopolitique de la nuit dernière. Il est 13h17. Revenons donc sur cette fusillade en France. Elle a fait 2 morts dans le Luberon. Il y a 3 blessés graves, dont un enfant. Ça s'est passé à la fin d'un mariage, la nuit dernière, dans le village de Goult. 2 morts, dont la mariée, Adèle Bossard.
Oui, elle fait partie des 2 personnes tuées. L'autre est l'un des assaillants, un homme d'une 30aine d'années. Il y a aussi 3 blessés graves, dont un enfant. Parmi les victimes, plusieurs sont connues pour trafic de stupéfiants. Les coups de feu ont été tirés devant la salle des fêtes où s'est déroulé le mariage. À la fin de la soirée, vers 4h30 du matin, il restait sur place une 30aine de personnes. Le ou les autres tireurs ont pris la fuite et ce matin, un important dispositif est déployé pour tenter de les retrouver. Avec près d'une 100aine de gendarmes, un hélicoptère, des drones et le renfort du GIGN. Des techniciens en identification criminelle sont aussi sur place, ainsi que des agents de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale venus de Paris.
Adèle Bossard, ici Vaucluse. 3 nouveaux cas d'intoxication alimentaire sévère dans le département de l'Aisne. Intoxication d'enfants. Ces 3 nouveaux cas font monter à 17 le nombre d'enfants contaminés, dont une fille de 12 ans qui est morte lundi. Retenez encore qu'à Marseille, les métros sont en grève ce dimanche. À l'appel de Force ouvrière, aucune rame ne circule sur les 2 lignes. Il reste 2 départements en vigilance canicule, le Rhône et l'Isère. Les fortes chaleurs d'hier et de la nuit nous ont donné des envies de fraîcheur. Eh bien, c'est ce que je vous propose avant le point météo. Point fraîcheur dans une grotte. La vie troglodyte dans les grottes de Saint-Christophe. C'est entre l'Isère et la Savoie. Et mieux vaut être équipé, comme le montre ce reportage de Léopold Picot.
On est là, parti pour l'aventure.
Un courant d'air frais accueille les visiteurs.
Ah, il fait froid.
9 degrés dans la grotte toute l'année. Séverine, un peu frissonnante, ne s'en plaint pas.
Vu la canicule, c'est dit, on va visiter les grottes pas loin.
Elles se mettent au frais, oui.
Alexis Bouvier pointe des stalactites avec sa torche. Elles existent grâce à cette fraîcheur et à l'humidité. Le guide, lui, doit adapter ses vêtements.
J'ai opté pour le short. Et j'ai constamment sur moi une polaire que j'enfile quand je rentre dans la grotte. Voilà, c'est toute une organisation au niveau des vêtements.
Après 10 minutes, le groupe commence un peu à grelotter. Eugénie est venue avec une amie et ses enfants.
On avait prévu gilet, polaire.
On n'a pas su s'il faisait 9 degrés. Je pense qu'on aurait pris un petit peu plus.
Eugénie est loin d'être un cas isolé, confirme Sophie Pinceau, médiatrice depuis 5 ans aux grottes de Saint-Christophe.
C'est que dès qu'il fait chaud, dès que la chaleur revient, on a beaucoup plus de monde qui sont attirés par la fraîcheur de la grotte. Ça n'a pas changé. En tongue, sans pull, ni rien du tout. Une petite serviette de bain sur les épaules, ça va aussi si vous oubliez de prendre un pull.
Avec ou sans tongue, hier, une centaine de visiteurs ont profité de l'air frais des grottes.
Léopold de Picot, ici, Pays de Savoie, le temps.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonjour Magali Rochereau.
Bonjour Eric.
Le temps devient instable.
Oui, cet après-midi, les averses à caractère orageux de ce matin se décalent de l'Auvergne aux Ardennes en passant par la Bourgogne. Et le tonnerre gronde aussi côté Pyrénées, au sud des Alpes et en Corse. À l'avant de la perturbation entre le Gard et l'Alsace, c'est voilé. Et le vent d'ouest à sud-ouest balaye la moitié nord jusqu'à sur l'est du pays. Mais partout ailleurs, le soleil brille généreusement jusqu'à ce soir où la grisaille fait son retour le long des côtes de la Manche et en Aquitaine.
Et avec la baisse des températures.
Oui, même si elles se maintiennent au-delà des valeurs de saison, on sent davantage de fraîcheur. Le thermomètre affiche 26 à 31 degrés de l'Aquitaine au Pays de la Loire et en Normandie. À l'est, pour autant, la chaleur se maintient entre 33 à 36 degrés du Grand Est à la région Rhône-Alpes et en basse vallée du Rhône.
Les prévisions de Magali Rochereau.